Notre parcours, un peu simple, mais point faux, j'espère, des grandes morales à travers l'histoire de la philosophie de l'Occident. Dans ce parcours des grandes morales, j'ai eu l'occasion de signaler l'étrangeté de pensée comme celle d'Aristote, dont je vous ai assuré que vous n'y comprendriez rien, et je crois avoir tenu mes promesses, l'étrangeté encore plus grande de la pensée d'Épicure, dans la mesure donc où le monde auquel renvoient les anciens est évidemment un monde très différent de celui que nous percevons. Normalement, saint Augustin aurait dû nous être moins étrangers, parce que nous sommes nourris au lait de la vie chrétienne. Cependant, certains aspects de la pensée de saint Augustin ont dû vous étonner. Au contraire, ce soir, avec Kant, vous allez vous trouver chez vous, même si vous croyez que vous n'êtes pas kantien, parce que, au fond, ce que l'on enseigne comme la morale, quand les gens parlent de la morale, quand les gens parlent du devoir, de faire son devoir, quand ils se plaignent de ce qu'ils appellent la morale judéo-chrétienne, qu'ils ignorent complètement, puisque la morale judéo-chrétienne, c'est celle d'Augustin, mais en fait, ils pensent à celle de Kant. Quand il parle de s'émanciper de la rigueur morale, c'est à Kant qu'il pense, etc. Vous allez vous trouver dans un monde soudainement assez familier. Même si vous croyez ne pas connaître Kant, vous avez été inoculé à la pensée kantienne depuis le berceau, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément un mal, mais qui va nous permettre donc un chemin, me semble-t-il, plus aisé que celui que nous avons eu à suivre pour rentrer dans la culture de l'Antiquité, pour rentrer vraiment dans la culture de l'Antiquité, ou au moins dans son antichambre. Donc l'identité de la moralité, du devoir, de l'impératif, où s'exprime une liberté autonome, tout cela nous est familier. Vous voyez, par exemple, à propos d'Épicure, j'ai parlé de morale ascétique, c'est-à-dire d'une morale qui se déploie dans des exercices d'attention, de purgation des passions, de discipline sur soi. Là, on n'est pas du tout dans une morale ascétique au sens de l'exercice. On est dans une morale qui s'exprime entièrement à l'impératif. Elle ne s'exprime pas sur le mode du conseil. J'ai souligné que les moralistes ascétiques, stoïciens, épicuriens, s'exprimaient sur le mode du conseil. Agis toujours, fais comme si, etc. Quand tu tiens une cruche, dis-toi qu'elle est cassable. Bon. Avec Kant, on est très loin d'être dans le conseil pratique. On est au contraire donc dans l'impératif, avec toute la force de l'abstraction. Car l'impératif tient sa force, c'est le pari que je me suis donné de vous faire comprendre ce soir, l'impératif tient sa force de son abstraction. Et parce que, au fond, il exprime, cette abstraction exprime la part la plus haute de ce que nous sommes. Dans la mesure où notre vocation est celle d'un être rationnel, la part la plus haute de ce que nous sommes, c'est l'exercice de la raison. Il serait dommage que cet exercice de la raison ne conduise pas notre existence, et qu'il soit inutile, qu'il ne nous serve qu'à faire des mathématiques. Or, qu'est-ce que c'est que la raison ? C'est, pour le dire en un mot, la capacité de l'inconditionner. Définition kantienne de la raison, c'est la capacité de l'inconditionner. Dans tous les sens du mot inconditionner, c'est-à-dire que la raison, c'est ce qui nous permet de remonter de condition en condition, dans un raisonnement, dans une enquête, dans une démonstration, et remonter de condition en condition jusqu'à l'inconditionné. C'est ainsi que le mouvement naturel de la raison est celui de la métaphysique. La raison ne peut pas faire autre chose que de s'élancer dans le mouvement de la métaphysique parce que, de son propre mouvement, elle est invinciblement conduite à penser l'inconditionné. Je prends un exemple simple. Le mot le plus étonnant de notre discours, le mot qui devrait nous rendre perplexes à chaque fois, c'est le mot « tout ». Tous les hommes sont mortels, Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ? C'est tous les hommes sont mortels. Vous avez déjà vu tous les hommes, vous ? D'où vient le tout ? C'est comme ça que s'éveillent les colères adolescentes. Tous les parents de mes copains les autorisent à avoir un iPhone. Vous êtes les seuls qui ne... Et tout d'un coup, la raison s'éveillant dans un corps adolescent découvre l'inconditionné et s'étonne de la relativité des conditions et des circonstances dans lesquelles elle est malheureusement jetée par un héritage familial terriblement subi. Et donc le mot le plus ancien de la philosophie, c'est le mot de... mais quelqu'un va m'aider à le retrouver. Le premier à avoir annoncé une éclipse, le premier à avoir fait creuser des canaux, le premier à avoir acheté de l'huile pour spéculer. Tant pis. C'est la fatigue qui se fait sentir. Donc voilà, en tout cas, le mot le plus étonnant dans notre discours, c'est le mot « tout », car c'est l'élan même qui nous fait penser l'au-delà de tout l'observable. Et cet au-delà de tout l'observable est une condition même de l'observation. Car quand j'aurai débarqué en Angleterre, au bout de quelque temps, je dirais « toutes les Anglaises sont rouges ». Et c'est la condition même d'une observation que de pouvoir se hausser au-delà de cette observation à l'inconditionné qui est au principe de toutes les conditions qui en découlent. Or, ce mouvement vers l'inconditionné qui est celui de la raison en tant qu'elle connaît. Donc la raison en tant qu'elle connaît pose trois grands inconditionnés que Kant appelle des idées, pour reprendre le mot emprunté à Platon. Ces trois grands inconditionnés, c'est moi, car moi, c'est la totalité de mon expérience. Or, je n'ai jamais fait le tour de la totalité de mon expérience. Je ne verrai même jamais mon visage, heureusement, d'ailleurs, paraît-il. Et je n'entends jamais ma voix. Et c'est la raison pour laquelle je suis surpris quand je l'entends enregistrer. Et donc, je n'ai jamais fait le tour de ma propre existence. Et cependant, je dis moi. D'autant plus qu'elle est essentiellement inachevée pour l'instant. La deuxième idée vers laquelle la raison se hausse naturellement, c'est le monde. Nul n'a jamais vu le monde. Mais toute expérience prélevée est prélevée sur un fond que l'on appelle le monde. Et on pense, en pensant le monde, que toutes ces expériences, celles du géologue, celles du biologiste, celles du psychologue, ont un lieu où elles coïncident, un foyer imaginaire, focus imaginarius, où elles peuvent coïncider. Et qu'un jour ou l'autre, les connaissances que nous recueillons morceau par morceau, il se révèle qu'elles forment système parce qu'il y a un monde. Et puis la troisième idée que naturellement la raison postule, c'est Dieu, c'est-à-dire l'idée d'un fondement de ce monde, l'idée d'une unité originaire. Et donc la métaphysique, naturellement, est portée vers les idées de moi, du monde et de Dieu. Ça, c'est dans l'ordre de la connaissance. Mais il en va de même dans l'ordre de l'action. Parce que dans l'ordre de l'action, cette capacité de l'inconditionné, et ce n'est pas pour rien que j'évoquais les colères de l'adolescent, cette capacité de l'inconditionné, elle nous permet d'opposer ce qui est et ce qui doit être. Parce que devant la particularité des conditions, devant les circonstances plus ou moins accablantes ou atténuantes, au fond, je peux toujours opposer que ça ne devrait pas être ainsi. C'est comme ça, mais je ne vois pas pourquoi je me résignerais à ce que ce soit comme ça. Il y a donc un mouvement de l'intelligence qui l'a conduit à l'inconditionné, mais bien plus encore, il y a un mouvement de la liberté qui l'a conduit à l'inconditionné. Et quand on me dit « c'est comme ça et pas autrement », je réponds « eh bien, ça devrait être autrement et je vais m'en occuper ». Donc, dans l'ordre de l'action, la raison a la capacité d'opposer ce qui est et ce qui doit être. C'est la raison pour laquelle nous rentrons dans ce qui fait un aspect fondamental de la modernité, ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire ce qui a émergé à partir de la pensée du XVIIe siècle, de la physique du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'opposition, bon, non pas l'opposition, la distinction de la sphère du conditionné et de la sphère de l'inconditionné. La sphère du conditionné, on l'appellera matière. La sphère de l'inconditionné, on l'appellera, et à juste titre, raison, esprit. Cela tient au fait que la science moderne, alors il faudrait que vous révisiez nos rencontres sur Aristote, sur Épicure, pour voir la différence. Cela tient au fait que la science moderne s'est déployée sur le fond d'une interprétation mécaniste du monde. Interprétation mécaniste du monde, cela veut dire que on va y privilégier la cause auxiliaire, la chicnode antérieure, on va y privilégier l'élaboration de lois qui vont exprimer des régularités mathématiques permettant de jeter le filet de la mathématique sur le réel. Et donc la science est née au XVIIe siècle de ce mot d'ordre inouï de Galilée, mesurer tout, et de la conviction inouïe qu'en mesurant, on connaît. Il ne serait jamais venu à l'esprit ni d'un Aristote, ni même d'un Épicure, puisque j'ai signalé même qu'Épicure ricanait là-dessus, d'appliquer la rationalité mathématique aux sensibles matériels tels qu'il se succède à lui-même dans un certain nombre d'opérations physiques, chimiques, etc. Donc cette interprétation mécaniste, elle assure la puissance de l'homme. C'est ce dont nous sommes les héritiers depuis 3 siècles, et c'est pas fini. Et elle assure la puissance de l'homme parce que ce monde compris comme une mécanique est un monde que je peux utiliser, dont je peux exploiter les lois, détourner les mouvements, puisque ces mouvements, à la différence du monde aristotélicien, n'ont pas de finalité propre. Et s'ils n'ont pas de finalité propre, à ce moment-là, toute connaissance est une construction. Et la physique en montre par excellence l'illustration, puisque toute connaissance physique est une construction d'un certain modèle que l'on va faire pénétrer dans la réalité pour en arracher les ressorts et être en mesure de les utiliser par après. Et c'est pourquoi il y a un lien évident entre la rationalité scientifique et la puissance technicienne, puisqu'au fond, la rationalité scientifique n'est pas autre chose que les articulations du technicien appliquées au monde matériel. Alors évidemment, si ce monde est interprété comme un monde entièrement déterminé, la question que j'ai posée initialement de la présence d'une liberté dans ce monde devient encore plus inouïe. Si le monde est déterminé, si le monde s'explique par des causes et des mécanismes, que vient y faire une liberté? Tel est l'enjeu que Kant a parfaitement appréhendé. En effet, si je prends encore comme point de départ donc, cette vision mécaniste du monde que j'ai trop rapidement évoquée, mais j'espère que vous complétez les lacunes, il me reste 2 solutions. Soit je dis, eh bien, le mécanisme s'étend à l'homme lui-même. Et il n'y a pas de raison pour que dans la toile des déterminismes, il y ait une déchirure. Comme dit Spinoza, il n'y a pas de raison pour que l'homme soit un empire dans l'empire. Et donc, je dois pouvoir interpréter les conduites humaines, les humeurs, les sentiments, les passions, pour le coup, en termes mécaniques. Et donc, c'est les thèses matérialistes modernes. Si je dis la matière, c'est la sphère du déterminé, si je dis que toute conduite humaine relève du même déterminisme, ça veut dire que l'esprit est réductible à ses conditions matérielles. conditions sociales, conditions économiques, conditions biologiques, conditions éducatives, conditions tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que je vais appliquer le même processus, je vais interpréter le phénomène par sa cause antécédente. De telle sorte qu'au fond, il n'y a plus d'actes, il n'y a que des résultats. Ou alors, donc ça c'est la thèse matérialiste. Ou alors, thèse que l'on dira alors spiritualiste, le mot n'est guère revendiqué, idéaliste, qui consiste à dire, eh bien, la sphère du déterminé et la sphère de l'indéterminé sont radicalement distinctes. Et la liberté est, dans ce monde conditionné, dans ce monde déterminé, capable de lire les déterminismes, capable de les interpréter et d'en exploiter les ressources, mais elle est exemptée d'être analysée par ces déterminismes. C'est la grande question de savoir si une analyse scientifique de l'homme est possible, savoir si une analyse scientifique de l'homme est légitime. Et si je fais une analyse scientifique de l'homme, est-ce que c'est encore l'homme que j'analyse ou est-ce que c'est seulement 2 mètres carrés de peau enveloppant 95 kilos de muscles pour ce qui me concerne. Et donc la thèse en présence de laquelle nous sommes avec Kant, à laquelle j'essaye de vous introduire, c'est précisément celle qui prend au sérieux cette capacité de l'inconditionné, parce que si je pense le monde, c'est que je ne lui appartiens pas. Si je suis capable, pensant le monde, de le penser à condition qu'il y ait un inconditionné, c'est que je ne lui appartiens pas. Mais si je ne lui appartiens pas, enfin je lui appartiens par ma partie déterminée, mais cela veut dire, et c'est la conséquence la plus forte, c'est celle dans la culture dans laquelle nous sommes, et il faut en apprécier la pertinence et la force, cela veut dire que de ce qui est à ce qui doit être, il n'y a aucune conséquence. Si vous voulez faire distinguer, vous direz du sein au sollen, il n'y a aucune conséquence. C'est-à-dire que si l'on me dit c'est comme ça, ça n'a pas de conséquence pour la liberté. Car la liberté est précisément cette capacité de l'inconditionné. Et donc la morale, alors vous voyez, j'ai insisté lors de nos rencontres précédentes sur le fait que les philosophes de l'Antiquité, y compris Augustin, nous disent « regarde bien le monde ». Rappelez-vous la belle page d'Épicure qui dit « regarde bien la poussière dans le rayon de soleil, observe ». Et pense que la morale consiste au fond à s'ajuster à ce monde, à s'ajuster à ce que ce monde comporte d'harmonie et de justice. Pour être juste, il faut être ajusté aux yeux des anciens. Mais si, au contraire, je pense la séparation de l'être et du devoir-être, la séparation du sein et du sollen, alors la dignité de l'homme consiste précisément à ne se pas ajuster et à protester contre les déterminismes qu'il subit, à protester contre les circonstances dans lesquelles il se trouverait, il ne leur doit rien. Donc quand je dis que la raison, c'est la capacité de l'inconditionné. Je récapitule, c'est la capacité de l'inconditionné en tant que la connaissance exige que nous remontions à l'inconditionné. Ça, c'est clair. Il n'y aurait pas un syllogisme si on ne disait pas tout. La condition pour qu'il y ait un syllogisme, c'est qu'on puisse dire tout. Or, le tout n'est pas donné à l'observation. Et la capacité de l'inconditionné, elle se donne aussi dans l'ordre de l'action, c'est-à-dire donc dans la capacité que nous avons d'opposer l'être et au devoir-être. Et la morale, donc, ne peut absolument pas s'inspirer de la contemplation du monde, où elle ne trouve que des mécanismes muets. Non seulement des mécanismes muets, mais des mécanismes que je peux détourner à mon profit. Le sens du vent ne dirige pas le bateau. Et le bateau peut naviguer vent debout. La nature ne m'impose rien. Et si je connais les lois de la nature, je suis en mesure de les modifier par la puissance technicienne et par la connaissance de ces lois. C'est là que nous en sommes actuellement s'agissant de notre corps. Il y a des gens qui disent « il y a l'homme et il y a la femme ». Mais la réponse la plus simple à leur apporter, c'est « il n'y a pas de conséquence de l'être ou devoir être ». Moi, je veux bien constater qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes, mais ça n'est pas un impératif. Est-ce que l'ordre des choses me donne un impératif ? Non pas. Puisque cet ordre des choses, je peux l'utiliser, le détourner, l'exploiter. Et la connaissance que j'ai de ma biologie me permet effectivement de contrecarrer les fatalités biologiques. Et donc, si j'ai la connaissance que j'ai de la grippe me permet de contrecarrer la grippe. Et je ne peux pas dire c'est comme ça. L'action consistera donc à opposer ce qui est et ce qui doit être. J'ai la grippe, mais ce n'est pas bien. Et je vais donc opposer ce qui doit être et ce qui est. Et je ne vais pas me résigner au fait que la grippe soit. Et je vais donc utiliser toute la connaissance que j'ai de la biologie pour retourner en quelque sorte le vivant contre lui-même et en faisant quoi ? Une mécanique. Car c'est en faisant du vivant une mécanique que je peux le retourner contre lui-même. C'est la fameuse image du corps-machine chez Descartes. Or, une machine, je l'amène où je veux. On voit quelquefois un cheval se précipiter vers l'écurie. On n'a jamais vu une voiture sortir de la route pour aller dans une station-service. Donc, les êtres mécaniques sont soumis à ma volonté. Alors, voilà pourquoi, dans le vocabulaire kantien, tout ceci, c'était une introduction. Voilà pourquoi, dans le vocabulaire... Mais après, si vous avez compris l'introduction, tout le reste va découler tout de suite, pratiquement comme d'une machine automatique. Voilà pourquoi, donc, dans le vocabulaire kantien que tout le monde connaît, raison pure théorique, ça veut dire donc la raison en tant qu'elle s'élève à l'inconditionné pour connaître, et raison pure pratique, ça veut dire la raison en tant qu'elle s'élève à l'inconditionné pour agir. Et donc, vous avez, tout le monde connaît les titres, critique de la raison pure, critique de la raison pratique. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie critique de la raison pure théorique, c'est quelles sont les caractéristiques de notre connaissance, qu'est-ce que nous connaissons. Critique de la raison pure pratique, cela veut dire quel est l'enjeu de cette volonté qui est précisément la raison. Donc les deux mots sont identiques chez Kant. Hein. La raison en tant qu'elle oppose ce qui est et ce qui doit être. Ceci est bien exprimé dans un texte extrêmement célèbre de Kant. Kant n'est pas particulièrement un poète et n'est pas réputé pour le lyrisme de son œuvre. Toutefois, il arrive que de temps en temps, il y ait un passage empreint d'un certain lyrisme. Et en particulier, la célèbre conclusion de la critique de la raison pratique que je vous lis, je crois que cette conclusion a été inscrite sur la tombe de Kant à Königsberg, mais je ne le garantis pas. Beaucoup d'entre vous doivent connaître le texte. Deux choses remplissent le cœur d'une admiration et d'une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes. À mesure que la réflexion s'y attache et s'y applique, deux choses remplissent le cœur d'étonnement. Le ciel étoilé au-dessus de ma tête, la loi morale au fond de moi. Deux objets d'étonnement. Le monde, moi. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que j'y sois logé. Comment moi, infime roquet dans l'univers, vais-je élever la protestation de l'inconditionné dans ce monde minéral qui tourne en silence et qui n'a rien à faire de ma petite existence. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. Ces deux choses, je n'ai pas à les chercher ni à en faire la simple conjecture, comme si elles étaient enveloppées dans des ténèbres ou placées dans une région transcendante. Non, je les vois devant moi. Je les rattache immédiatement à la conscience de mon existence. La première, le ciel étoilé, commence à la place que j'occupe dans le monde extérieur des sens et étend la connexion où je me trouve à l'espace immense. Avec des mondes ou de la démonde, des systèmes et de systèmes, et en outre, au temps illimité de leur mouvement périodique, de leur commencement et de leur durée. La seconde commence à mon invisible moi, à ma personnalité, et me représente dans un monde qui possède une infinitude véritable, car le véritable infini, il est là, bien plus que le ciel étoilé. Une infinitude véritable qui n'est accessible qu'à l'entendement et avec lequel je me reconnais lié par une connexion non plus comme la première, seulement contingente, mais universelle et nécessaire. La première vision d'une multitude innombrable de mondes anéantit pour ainsi dire mon importance, en tant que je ne suis qu'une créature animale qui doit restituer la matière dont elle fut formée. La deuxième vision, au contraire, rehausse ma valeur comme intelligence, comme esprit, par ma personnalité, dans laquelle la loi morale me révèle une vie indépendante de l'animalité, et même de tout le monde sensible, autant du moins qu'on peut l'inférer de la détermination conforme à une fin que cette loi donne à mon existence et qui ne se borne pas aux conditions et aux limites de cette vie, mais s'étend à l'infini. Il y a un trou qui introduit l'infini dans le monde, c'est la loi morale. Une exigence irréductible à quelques conditions. Voilà l'aventure dans laquelle nous allons rentrer. Pour comprendre cela, alors non, donc la question qui nous intéresse est celle de la morale. Vous comprenez donc que la morale telle que Kant va l'enseigner ne devra rien à l'observation. Il ne s'agira pas de voir comment les hommes vivent, ce qui était au fond la morale aristotélicienne. J'ai insisté par exemple sur le fait que la morale aristotélicienne reposait sur des exemples. Quand Aristote évoque la prudence, il dit « faisons le portrait de l'homme qu'on appelle prudent ». J'avais insisté là-dessus, j'avais même lu ce portrait, je crois. Au contraire, Kant, évidemment, ne procédera pas par un portrait, mais par une épure abstraite, car un prudent réel, je n'en ai jamais vu. Il faut donc que je décrive le prudent idéal, celui que l'esprit peut appréhender. Car d'aucun homme réel, je ne peux dire qu'il est pur, d'aucun homme réel, je ne peux dire qu'il est saint, d'aucun homme réel, je ne peux dire que ses intentions sont transparentes. Or, si je pense que la moralité est dans la transparence de l'intention, ce n'est pas le monde réel qu'il faut que je regarde, mais c'est précisément les exigences rationnelles. C'est ce qui doit être. Et quand mes enfants me disent « mais tout le monde fait comme ça », je peux leur répondre en bon kantien « mais alors j'en ai vraiment rien à faire ». Que tout le monde fasse comme ça. Puisque si tout le monde fait comme ça, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme tout le monde. Et si tu te contentes de dire qu'il faut faire comme tout le monde, bien, tu n'as pas compris le principe qui est au fond de toi, qui est celui de ta liberté. Et qui est précisément la capacité de t'opposer aux inerties de la nature aussi bien que celle de la sociologie. À la différence d'Aristote, j'insiste, vous vous rappelez peut-être le passage d'Aristote dans lequel Aristote disait, j'ai même dû plaisanter là-dessus parce que parfois je commets des plaisanteries de mauvais goût. Aristote disait, en matière de morale, il ne faut pas exiger trop de précision. Et il donnait comme exemple, enfin comme analogie, la distinction entre l'équerre du géomètre et l'équerre du maçon. L'équerre du géomètre est rigoureusement juste, l'équerre du maçon, elle s'adapte aux circonstances. Et pour Aristote, la morale relève de l'équerre du maçon, pas de l'équerre du géomètre, car l'équerre du géomètre donne tort à tout le monde. L'équerre du géomètre donne tort à tous les maçons, disqualifie tous les maçons. Donc l'idée théorique peut toujours être opposée au cas concret. Donc Aristote nous invite à une morale inductive, c'est-à-dire elle ne nous dit pas ce qui doit être, mais ce qui est. C'est comme ça. Au contraire, la morale de Kant, qui est beaucoup plus proche de nous, sera une morale entièrement déductive, puisqu'elle ne peut pas être redevable à quoi que ce soit du donné empirique. Et donc on va prendre l'équerre du géomètre, là, pour le coup. Celle qui donne tort à tout le monde, mais qui nous permet au moins de régler la hausse. Et d'avoir en perspective l'idée qui donne la mesure de toute chose. Vous voyez ? Donc c'est encore l'idée de mesure que nous avons, mais ici la mesure est en quelque sorte la mesure de l'idée, la mesure du géomètre que je vais toujours pouvoir opposer à la mesure du maçon. Et donc cette morale entièrement déductive, entièrement a priori, partira de la définition de ce que l'on appelle quelque chose de bon. Or, le premier point, alors je déroule maintenant rapidement les aspects les plus familiers de cette morale kantienne. Le premier point dont Kant nous invite à partir, c'est le fait que la seule chose qui soit bonne ou mauvaise, c'est la liberté. Ça, c'est clair. Le jugement bon ou mauvais ne relève pas des choses, ne porte pas sur les choses, il y a une seule réalité qui puisse être dite bonne ou mauvaise, c'est une volonté. Est-il bon d'être riche ? Non. Est-il mauvais d'être riche ? Non. Il y a une seule chose bonne et mauvaise, c'est la volonté que j'applique à ma richesse. Est-il bon d'être fort ? Est-il mauvais d'être fort ? Non. La seule chose qui soit bonne ou mauvaise, c'est la volonté que j'applique à ma force, etc. Donc ce n'est pas les choses qui sont bonnes ou mauvaises. Ça, nous l'avons déjà lu avec saint Augustin la dernière fois. Ce n'est pas les choses qui sont bonnes ou mauvaises, c'est la volonté. C'est-à-dire que c'est une question qui se pose à la liberté, justement, en tant qu'elle peut s'opposer aux données. Or, qu'est-ce qui caractérise une volonté ? Précisément, ce qui la distinguerait, ce qui la distingue, voire l'oppose, à un désir, à un sentiment, à un penchant. Car le désir, le sentiment, le penchant peuvent être interprétés dans l'ordre du conditionné. Les humeurs peuvent être réglées par le sucre ou le sel. Et donc, si je m'attache à mes désirs et à mes penchants, je réenferme, j'engloutis à nouveau la liberté dans le marais du conditionné. Il faut donc appréhender ce qu'est une volonté en tant qu'elle est distincte d'un désir, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas à proprement parler sur un objet. Et voilà la grande différence. Car ce qui fait qu'une volonté est bonne, ça n'est pas son objet. Puisque je peux vouloir de l'or et que ce soit bien, je peux vouloir de l'or et que ce soit mal, je peux faire la charité et que ce soit bien, je peux faire la charité et que ce soit mauvais, je peux... etc. Donc le bien n'est pas l'objet, mais la volonté appliquée à l'objet. Et à ce moment-là, cette volonté ne peut être comprise que dans la pureté de sa forme. Ainsi, une volonté sera caractérisée par sa forme. Elle ne vaut que quant à sa forme, que par rapport à sa forme. Ce qui importe, ce n'est pas ce que je veux, mais comment je le veux. Or, la forme... À ceci de particulier, pensez aux mathématiques, qu'elle est précisément universalisable. Le bien que je veux sera toujours particulier. On pourra se le disputer. La bourse chargée d'or que vous avez, on pourra se la disputer. Mais la volonté, en tant qu'elle est bonne, c'est-à-dire en tant qu'elle est conforme à sa propre forme, elle ne fera pas l'objet d'une dispute, d'une convoitise, d'une rivalité quelconque. Elle est pure. Vous voyez, l'importance du mot pur chez Kant, pur signifie a priori, c'est-à-dire ne dépendant pas des circonstances. Et la rectitude de la forme est donc ce que je peux toujours opposer au caractère ondoyant des conditionnements, au caractère incertain des conditionnements. Ainsi, vous pouvez retenir la formule même du formalisme kantien. Le devoir n'est pas de faire le bien, mais le bien est de faire le devoir. Si je dis le devoir est de faire le bien, je définis la qualité morale par le bien recherché. Mais si je dis le bien est de faire le devoir, je définis la qualité morale par la forme même du devoir, quel que soit l'objet auquel il s'applique. C'est ainsi que on peut aisément comprendre la distinction que fait Kant entre impératif hypothétique et impératif catégorique. Tout le monde connaît l'expression impératif catégorique, peu savent ce que cela signifie. Voilà ce que cela signifie. L'impératif hypothétique... Un impératif, c'est ce qui exprime un devoir. Mais un impératif hypothétique est celui qui est relié à une hypothèse, c'est-à-dire à une condition. L'impératif hypothétique me dit donc, si tu veux avoir des amis, alors sois honnête. Comme les parents qui disent, si tu veux réussir ton bac, alors ne sors pas. Oh, mais si tu veux, une fois que tu as passé ton bac, tu peux sortir. C'est quand même complètement pervers. Et si tu veux rester en bonne santé, alors ne bois pas d'alcool. Si on connaissait un produit psychotrope qui n'abîme pas la santé, par exemple la télé, eh bien c'est bon. L'impératif hypothétique, si tu veux, alors tu dois, fait varier le tu dois en fonction du si. On est donc dans l'ordre du conditionnée, la liberté s'y prend elle-même au piège des conditions dans lesquelles elle se trouve. Si je faisais varier les conditions, je ferais varier l'acte. La preuve, c'est qu'une fois que j'ai mon bac, je peux mener une vie de bâton de chaise. L'impératif catégorique est donc celui qui ne vaut que par sa forme dans sa pureté. Et quelle est sa forme ? C'est « tu dois ». Alors on est un peu penaud, parce que si vous demandez « pourquoi tu dois ?», vous êtes très vite reconduit au conditionné. Et donc vous réenfermez très vite la liberté dans le jeu des déterminismes. Donc le « tu dois », c'est l'impératif qui ne vaut que par sa forme. Il est donc vide, il faut qu'il soit vide. C'est une forme. Ça n'est pas « tu dois aller à Constantinople » ou « tu dois faire tes devoirs » ou « tu dois mâcher du chewing-gum ». C'est « tu dois ». Et cette forme est la seule qui soit universalisable. Pourquoi ? Parce que la validité de ce devoir tient précisément à son universalité et à son caractère inconditionné. C'est-à-dire que si ce que je veux, je peux le vouloir. Allez, l'expression est maladroite, mais elle se comprend. Si ce que je veux, je peux le vouloir pour tous et pour toujours, alors je suis assuré que c'est bien. Mais le plus souvent, ce que je veux, je le veux de manière conditionnée. Comme les gens qui font un régime et qui prennent un bonbon pour une fois. Et la plupart du temps, les fautes que nous commettons, nous les posons comme des parenthèses. C'est ce que l'on s'accorde pour une fois. L'universel n'a pas de parenthèse. Et il a la transparence d'un rayon lumineux qui traverse toute l'évolution et permet donc de les mesurer à l'aune de l'universel. Donc l'impératif catégorique, s'il avait un contenu, il rentrerait dans le conditionné. C'est donc la forme. En revanche, je peux me dire, cette volonté particulière que j'ai, est-ce que je peux l'emboutir en quelque sorte de la forme du devoir ? Je veux aller à Istanbul. Est-ce que je peux dire, tu dois aller à Istanbul ? C'est-à-dire, est-ce que je peux poser le motif qui m'anime comme universel ? Si je peux poser le motif qui m'anime comme universel, je suis assuré qu'il est celui d'un homme libre. Je suis donc assuré qu'il est moral. Alors que si je ne peux pas l'universaliser, c'est parce qu'il est simplement dû à des circonstances régionales. Ce n'est pas le propre d'un homme libre. Le propre d'un homme libre, c'est de pouvoir poser un acte qui vaut pour tous, dans lequel tous se reconnaissent, dans lequel tout humain peut dire « je suis avec lui ». C'est ce que nous devinons chez les héros, dans lesquels nous nous reconnaissons parce qu'ils témoignent de la capacité qu'a la liberté d'opposer le devoir-être à l'être. Et on se dit « on est avec eux ». Pas toujours très près, mais intéressant. La formulation de l'impératif catégorique, pour ceux qui prennent des notes, je me permets de la donner sur le ton de la dictée, agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle soit une loi universelle, ferme les guillemets. Noch einmal, agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle soit une loi universelle. Cet impératif catégorique, Kant le monnaie en trois formulations différentes, que j'énumère rapidement. Première formulation, agit comme si la maxime de ton action devait, par ta volonté, être érigée en loi universelle de la nature. Je répète, agit comme si la maxime de ton action devait, par ta volonté, être érigée en loi universelle de la nature. Les plus attentifs d'entre vous doivent se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous a expliqué que la liberté ne doit rien à la nature, que le devoir-être ne doit rien à l'être, et voilà-t-il pas que Kant nous dit, agis comme si ton principe devait être applicable à la nature. Écoutez mieux, agis comme si, c'est-à-dire, c'est un modèle que l'on se donne. Ce n'est pas le principe de l'action. C'est le modèle analogique, comme si. Et de telle sorte que la nature n'est pas la source de l'impératif, mais elle en est le modèle. Kant dit le type, le pochoir. ce qui revient à dire, si ce que tu veux rend-il possible une nature ? Si ce que tu veux ne rend pas possible une nature, c'est embêtant. Oui, par exemple, si je dis à quelqu'un, si tu bois, tu t'abîmes la santé. Impératif, hypothétique. Après tout, il peut bien vouloir s'abîmer la santé. C'est mon fameux exemple initial, fumais-tu ? Ah ben oui, j'aurais dû y penser. En revanche, je peux dire à quelqu'un, est-ce que tu peux concevoir une nature possible avec des ivrognes ? Là, ça ne marche plus. Et donc, une nature faite d'ivrognes ne manquerait pas d'aller à sa propre dégénérescence. C'est également l'argument par rapport à l'homosexualité que ce pauvre monsieur Van der Merch, le député du Nord, avait ressorti de Kant. Il s'est fait évincer de l'UMP, courageusement, parce qu'il a dit, si on applique le principe kantien, l'homosexualité rend impossible qu'il y ait une nature. Ça semble frapper au coin du bon sens, mais ça veut dire donc ça n'est pas que l'acte est inspiré par la nature, mais c'est que l'acte doit pouvoir être transposé sur un modèle de cohérence naturelle. Deuxième reformulation de l'impératif catégorique, agis de manière à traiter l'humanité dans ta personne. Alors ça, cette formulation est très connue, c'est celle que l'on entend le plus souvent dans les couloirs de l'opinion. Agis de manière à traiter l'humanité dans ta personne et dans la personne des autres, jamais simplement comme un moyen, mais toujours comme une fin. Si le premier principe évoque l'idée de nature, le deuxième principe évoque l'idée de personne. Agis à toujours traiter l'humanité en toi et chez les autres, jamais comme un moyen. Car l'humanité mérite d'être traitée avec dignité, même en moi. Et donc, je ne peux pas me traiter moi-même comme moyen. Par exemple, c'est ce que l'on a vu dans le fameux arrêté sur le lancer de nains, auquel je reviens souvent ici parce que je le trouve vraiment caractéristique. Vous savez, la fameuse histoire en 99-95 de la boîte de nuit aux environs de Metz qui n'avait rien trouvé de plus drôle que de faire des lancers de nains. Et le maire de la municipalité est intervenu en pensant quand même que ça contredisait quelque peu la dignité humaine. Et il a interdit le lancer de nains dans les boîtes de nuit. Les nains, là-dessus, ont protesté car ils perdaient leur revenu. Et il y a un arrêté tout à fait remarquable et qui fait maintenant jurisprudence dans bien des domaines et qui devrait faire jurisprudence dans bien des domaines, selon lequel... les magistrats ont rendu sentence qu'aucun homme ne peut légitimement attenter à sa propre dignité. Retenez bien cet arrêté. Il donne du boulot. Mais il est très intéressant qu'il soit appliqué au lancer de nains et au fond, c'est un arrêté typiquement kantien. L'humanité a droit au respect en moi. Il ne me suffit pas de respecter les autres. Il y aurait un impératif, même si j'étais seul. Ce n'est pas le respect des autres, c'est le respect de l'humanité en moi, de l'humanité en tant qu'elle est une fin et non pas un moyen. Pourquoi l'humanité en tant qu'elle est une fin ? Parce que c'est l'humanité en tant qu'elle est une fin qui est précisément l'attestation de la liberté. C'est une morale de la liberté. J'aurais assez insisté là-dessus. C'est une morale de la liberté en tant qu'elle s'oppose à la nature, en tant qu'elle est capable de se donner à elle-même un impératif universel et en tant que un être libre ne peut à aucun moment être traité comme moyen, il ne peut être considéré que comme une fin. De telle sorte que l'achèvement d'une histoire, si jamais une histoire pouvait s'achever, serait ce que Kant appelle le règne des fins, c'est-à-dire une cité dans laquelle mutuellement nous serions l'un pour l'autre des fins. Or, nous sommes mutuellement l'un pour l'autre des moyens la plupart du temps. Dans une entreprise, que sommes-nous ? Nous sommes l'un pour l'autre des moyens. Et tout le problème de la politique vient de ce que nous sommes l'un pour l'autre des moyens et qu'on ne peut pas être complètement exonéré de la violence. Mais si nous étions complètement exonérés de la violence, alors nous pourrions nous traiter souverainement comme des êtres souverains, l'un et l'autre libres et témoignant de ce qui atteste la liberté, c'est-à-dire le respect. Les deux mots-clés de la morale kantienne sont des mots qui continuent de cheminer dans nos conversations, dignité, respect. Le respect consistant justement à ne pas toucher, touche pas à mon pote, et à ne pas traiter comme moyen, garder ses distances. Troisième formulation, agit de telle sorte que ta volonté puisse se considérer comme étant elle-même législatrice de la loi universelle à laquelle elle se soumet. Cela veut dire que, donc, si le premier principe insiste sur l'idée de nature, le deuxième fait émerger l'idée de personne, et le troisième met en lumière l'exigence d'autonomie, c'est-à-dire que la loi, je ne m'y soumets que pour autant que je me la donne à moi-même, puisqu'elle est une loi de liberté. Sinon, elle n'est pas une loi de liberté. Alors vous me direz, mais si ce devoir est un devoir de liberté, et si je ne m'y soumets que pour autant que je me le donne à moi-même, comment se fait-il que ce soit un impératif ? Excellente question. Car au fond, si je suis un être libre, ce qui est présenté comme un impératif devrait purement et simplement coïncider avec mon propre mouvement, avec ma spontanéité. Mais c'est précisément parce que je suis un être double qu'il faut que la liberté s'exprime sur le mode de l'impératif. C'est parce que je suis un être et de liberté et de nature, et de l'ordre de l'inconditionné et de l'ordre du conditionné, que pour moi, ma liberté doit être formulée sur le mode d'un impératif, c'est-à-dire sur le mode d'un combat. Ah, si j'étais tout entier être d'esprit, l'exigence de liberté ne prendrait pas la forme d'un combat. Mais elle prend la forme d'un combat parce que, justement, comme on le voit dans la fameuse page nous avons lue tout à l'heure, j'existe en quelque sorte dans deux mondes. Nous sommes donc devant la philosophie la plus haute et la plus pure, la plus cristalline de la liberté. L'affirmation la plus parfaite, la plus cohérente possible de l'exigence de la liberté. Sublime en quelque sorte. Évidemment, la difficulté dont Kant est parfaitement conscient, c'est que cette perfection, comme on l'a dit, on n'est pas capable d'en fournir un seul exemple. Il n'existe pas un seul exemple d'une intention parfaitement pure, parfaitement universalisable, parfaitement inconditionnée, puisque nous sommes toujours quelque peu dans l'ordre conditionné, et que pour nous, il se passe qu'aucune intention n'est absolument pure, et voilà pourquoi nous séjournons dans un monde où le mal règne. J'ai dit, pour qu'il y ait une morale, il faut qu'il y ait une cosmologie, il faut qu'il y ait une anthropologie, il faut qu'il y ait une métaphysique. On a vu la cosmologie, c'est une cosmologie mécaniste. On a aperçu rapidement l'anthropologie. C'est une anthropologie qui va se fonder essentiellement sur l'opposition du sensible et de l'intellectuel. Et va mettre en évidence l'exigence de la volonté comme cette puissance même de la raison de s'opposer à aux données. C'est ici qu'apparaît la nécessité d'une métaphysique. C'est-à-dire, ça nous fait revenir à la question initiale, que celle que j'avais posée lors de notre première rencontre. Une vision morale du monde est-elle possible ? Ou faut-il se résigner à ce que les protestations de la liberté soient toujours impuissantes et en porte-à-faux ? Soit toujours des revendications dont l'abstraction est certainement sublime, mais en même temps peut être dénoncée comme une sorte d'impuissance. C'est là-dessus que se sont fondées la plupart des critiques du kantisme, mais nous ne sommes pas là pour le critiquer, c'est là pour l'aimer. Or, Kant en est parfaitement conscient, puisque Kant, justement, quand il aborde la question de l'histoire, quand il aborde la question de la politique, quand il aborde la question de la religion, revient à cette situation d'un mal fondamental qui fait que les idées les plus pures et les plus cristallines ne sont pas ce que l'on voit ici. Donc, on a une morale de la prudence qui, à Chapeau, comme on dit à Lyon, s'efforce de s'aménager, qui est une grimace de ce qu'est véritablement l'exigence morale adressée à une liberté. Et donc la question est bien celle-ci, comment une liberté peut-elle être logée dans un monde conditionné ? Et on y revient. Comment ma protestation morale peut-elle, comment l'opposition de la liberté à la nature peut-elle ne pas être épuisante ? Et faire que je vais ployer sous le poids du conditionné. Et voilà pourquoi Kant nous conduit à repenser la métaphysique à partir de la morale. En cela, il est bel et bien héritier de la foi chrétienne. Puisque c'est le mouvement que j'ai montré dans Saint-Augustin, puisque saint Augustin nous invite à repartir vers Dieu à partir de la conscience. Dieu est en moi plus que moi-même. Dieu n'est pas dans les oiseaux et dans les arbres, il est dans ma conscience. Que m'importe qu'il soit dans les oiseaux, dans les arbres. Et c'est en tant que je suis la créature la plus sublime que je peux lire la présence de Dieu dans mon cœur bien plus que dans les oiseaux, les tulipes, et les, je vous laisse prendre tous les exemples que vous voulez. Les nuages. Donc la métaphysique moderne, peut-on dire, il faut retenir cette idée parce que si vous revenez pour le dernier cours qui portera sur Sartre, c'est fondamental. La métaphysique moderne va donc procéder à partir de la conscience et à partir de l'expérience de la conscience en tant qu'elle est porteuse d'une exigence assez singulière de liberté dans un monde où tout semble déterminé. Au fond, on revient à l'idée que j'ai évoquée avec saint Augustin la dernière fois. S'il y a une créature, c'est l'homme, c'est tout. Je vais vous rappeler le mot de saint Augustin que j'évoquais la dernière fois. Dieu a créé l'homme pour qu'il y eut un commencement. Mot assez énigmatique. Donc Dieu n'a pas créé les étoiles et les escargots pour qu'il y ait un commencement. Il n'y a un commencement que par l'homme. Pourquoi n'y a-t-il un commencement que par l'homme? Parce que l'homme est liberté, c'est-à-dire puissance de commencement. Car une liberté, c'est précisément ce qui ne doit rien à ce qui lui est antérieur. Et cette puissance de commencement, c'est celle qui est bien exprimée par l'impératif. Qui ne doit rien non plus à ce qui lui est antérieur ou extérieur et va donc pouvoir s'opposer au conditionné. Voilà pourquoi les trois idées métaphysiques du moi, du monde et de Dieu, vous savez celles que j'ai évoquées au début, les trois idées métaphysiques du moi, du monde et de Dieu sont pensées par Kant à partir de l'expérience morale. Premièrement, s'il y a un fait, c'est la liberté. Et si la métaphysique doit partir d'un objet, c'est de la liberté. Je pense là que j'ai pas songé à lire avec vous les textes que je vous avais soumis. Mais tant pis, vous les lirez dans votre cellule. Mais regardons rapidement dans la deuxième page un autre passage célébrissime de Kant. Devoir, mot grand et sublime, toi qui ne renfermes rien d'agréable, rien qui s'insinue par la flatterie, mais qui exige la soumission sans pour autant employer pour ébranler la volonté des menaces, ni espoir ni menace, propre à exciter naturellement l'aversion ou la terreur, mais en te bornant à proposer une loi qui trouve d'elle-même accès dans l'âme et gagne cependant elle-même, malgré nous, la vénération, sinon toujours l'obéissance, et devant laquelle se taisent tous les penchants, même s'ils travaillent secrètement contre elle. Quelle origine est digne de toi ? Où est le commencement ? C'est pour ça que les gens qui veulent saper la morale écrivent un bouquin. Par exemple, il y a un auteur que je juge assez médiocre qui a écrit un livre contre la morale qui s'appelle « Généalogie de la morale », où il a voulu montrer que justement, il y avait des conditions antérieures à la morale. Au contraire, Kant ne parle pas de généalogie de la morale, il parle de fondement de la morale. Quelle origine est digne de toi ? Il n'y a pas d'origine antérieure à la liberté. Où trouver la racine de ta noble tige qui repousse fièrement toute parenté avec des inclinations ? Cette racine dont il faut faire dériver la condition indispensable de la seule valeur que les hommes peuvent se donner à eux-mêmes. Donc il est inutile de vouloir prouver que l'homme est libre, car le tu dois est en lui-même le seul fait radical, la première évidence, et ce par quoi la liberté est quasiment immédiate. Donc il y a bien une expérience métaphysique. C'est l'expérience de la liberté en tant qu'elle est devoir. D'autre part, cette liberté, on l'a aperçue, elle est en chemin, elle est pénible, elle est inachevée, elle a affaire à des progressions et puis à des régressions, elle manque de cohérence, etc. Il y a une très belle page de Kant dans laquelle il dit « En tant que nous sommes libres, il ne devrait pas y avoir de progrès, il ne devrait y avoir que des conversions. » C'est une très belle idée. Mais parce que quand je dis qu'il y a un progrès, ça veut dire que je modifie le conditionné Et petit à petit, en modifiant le conditionné, je permets, par exemple, d'améliorer la culture. Mais améliorer la culture, ce n'est pas améliorer la moralité. Donc je peux améliorer la nourriture, je peux améliorer les médicaments, je peux améliorer la justice, etc. Je change les conditions. Il y a un progrès des conditions, mais il n'y a pas de progrès de l'homme. En revanche, si un homme devient libre, ça ne peut être que par un renversement en un seul coup, comme une crêpe, une conversion. Et c'est pour ça que on peut lire comme une courbe continue une progression, et puis dans cette progression qui serait une courbe continue, on peut imaginer qu'il y a un saut, en quelque sorte, qui fait que la liberté est une puissance de commencement. Alors que si je dis qu'il y a un progrès, la liberté n'est pas pensée comme une puissance de commencement, elle est pensée comme le résultat d'un conditionnement. Alors, c'est bien embêtant, parce que cela veut dire qu'au fond, nous mourrons nécessairement inachevés, nécessairement lesté par ce mal dans lequel nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nécessairement postuler, dit Kant, l'immortalité de l'âme. Car si nous postulions l'immortalité, si nous ne postulions pas l'immortalité de l'âme, le devoir serait impossible. Il n'y a que l'immortalité de l'âme qui puisse nous permettre de penser de manière asymptotique que les pesanteurs, les conflits, les inerties seront un jour levées. Il nous faut pour ça, alors vous voyez que le mot est délicat, il nous faut pour ça un progrès infini. Une fois apporté toutes les nuances au mot progrès que j'ai apporté. Et puis, pour penser que la liberté et la nature, alors l'enjeu est métaphysique devient absolument essentiel, pour penser que la liberté et la nature peuvent coexister et que cela ait du sens, il faut penser un créateur de la nature. C'est-à-dire qu'il faut penser que la nature est encore une manifestation d'une liberté, mais celle du créateur. Et à ce moment-là, ça n'est pas l'affrontement d'une liberté et d'une nature auquel nous assistons, mais c'est la présence d'une liberté à une liberté, à travers une nature qui est la manifestation de la liberté suprême du Créateur. Il ne faut donc pas que je pense une nature simplement comme le champ du conditionné, mais il faut que je pense une nature comme création. Car si je ne pense pas la nature comme création, je ne vois pas ce qu'une liberté vient y faire. Sauf à penser une espèce de saut improbable, comme quoi tout d'un coup il y a eu un être libre au milieu du conditionnement. Pour que la morale soit possible, il faut donc que la métaphysique soit refondée par l'affirmation de la liberté. Par l'affirmation de l'immortalité de l'âme, par l'affirmation d'un Dieu créateur tel que cette nature dans laquelle je me trouve actuellement ne soit pas simplement une terre étrangère sur laquelle je suis tombé. Mais elle est au fond, à sa manière, la manifestation d'une providence. C'est pourquoi j'ai joint le texte sur cette réhabilitation des postulation métaphysique. Le bonheur est l'état dans le monde d'un être raisonnable pour qui, dans toute son existence, tout va selon son désir et sa volonté. Et il repose par conséquent sur l'accord de la nature avec le but tout entier poursuivi par cet être, de même qu'avec le principe déterminant essentiel de sa volonté. Je ne peux pas être heureux si je ne pense pas qu'il y a un accord entre la nature et la liberté. Je serai toujours une cheville ronde pour un trou carré. Je serai toujours un étranger sur une terre muette si je ne pense pas qu'il y a un accord de la liberté et de la nature. Donc la condition même du bonheur, vous voyez, c'est l'idée importante qu'on avait mise au jour chez Aristote, c'est que ce monde soit créé. Si Aristote dit « bon, le bonheur, c'est un coup de peau qui arrive de temps en temps, et pour savoir si un homme est heureux, il faut attendre qu'il soit mort », c'est parce qu'Aristote ne pense absolument pas cette nature comme créée. Donc on ne voit pas, au fond, ce que l'homme vient y faire. Alors que penser la nature comme créée, c'est permettre de penser qu'il n'y a pas forcément contradiction de la liberté de la nature. La contradiction de la liberté de la nature ne peut être levée que par la postulation du Créateur. J'espère que je n'ai pas besoin de souligner l'extrême importance de ces thèses dans les débats contemporains. Je vous laisse faire vos devoirs chez vous, devant une feuille blanche, et essayer de penser ça dans les problèmes contemporains. Je répète, Il n'y a pas de... La condition pour qu'il n'y ait pas de contradiction de la liberté et de la nature, c'est qu'il y ait un créateur. S'il n'y a pas de créateur, la liberté est soit une illusion, soit une glace vanille fraise, avec une partie libre, une partie conditionnée. C'est ce que les gens voudraient faire dire à Kant, mais Kant n'a jamais dit. Kant n'a jamais dit que le monde était une glace vanille fraise. Mais il dit simplement, je pense qu'il y a un monde conditionné, il y a un monde inconditionné, il faut que je pense comment ils sont cohérents, sinon je ne serai jamais heureux. Alors on lit le texte. « Or, la loi morale, comme loi de la liberté, j'en suis à quatrième ligne, ordonne par des principes déterminants qui doivent être tout à fait indépendants de la nature, ça on a insisté, hein, et de l'accord avec celle-ci, avec notre faculté de désirer comme mobile. D'un autre côté, l'être raisonnable qui agit dans le monde n'est assurément pas en même temps cause du monde et de la nature elle-même. Donc, la loi morale, donc dans la loi morale, il n'y a pas le moindre principe pour une connexion entre la moralité et le bonheur. C'est pour ça que le devoir, l'impératif catégorique, ne dit pas si tu veux être heureux. Donc, il n'y a pas le moindre place pour une connexion nécessaire entre la moralité et le bonheur proportionnée d'un être qui, faisant partie du monde, en dépend et qui, justement pour cela, ne peut, par sa volonté, être cause de cette nature. Donc, ce n'est pas moi qui suis cause de la pluie et du beau temps. Les stoïciens nous l'ont bien dit. Et pour ce qui est de son bonheur, la mettre par ses forces propres, complètement d'accord avec ses principes pratiques. Cependant, dans le problème pratique de la raison pure, c'est-à-dire dans la mise en œuvre nécessaire du souverain bien, c'est-à-dire du bonheur, une telle connexion est postulée comme nécessaire. Nous devons chercher à réaliser le souverain bien. Ainsi, l'existence d'une cause de la nature, distincte de la nature et contenant le principe de cette connexion, c'est-à-dire de l'accord exact entre le bonheur et la moralité, est également postulée. Sinon, la moralité est impossible. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Or, cette cause suprême doit contenir le principe de l'accord de la nature, non seulement avec une loi de la volonté des êtres raisonnables, mais aussi avec la représentation de cette loi, en tant qu'ils en font le principe déterminant suprême de leur volonté, et par conséquent, non seulement avec les mœurs suivant la forme, mais aussi avec la moralité comme principe déterminant de ces mœurs, c'est-à-dire avec leur intention morale. Donc, le souverain bien n'est possible dans le monde que si l'on admet une cause suprême de la nature qui exerce une causalité conforme à l'intention morale. Voilà un portrait un peu rapide d'une philosophie qui n'est pas si difficile que ça, qui peut se réclamer de l'excellence de son abstraction. Et quand on suit le chemin de cette abstraction, on en comprend toute la force et toute la cohérence en tant qu'elle témoigne donc de la manière la plus parfaite de l'exigence d'un être libre qui ne doit rien au conditionné, qui va sans cesse se trouver opposé au conditionné, opposition bien fatigante, il est vrai. Et il lui faudrait quelques raisons de penser qu'il n'est pas tout le temps dans cette longue lutte, cette dure lutte de la liberté et du conditionné. Il faudrait un principe qui permette de penser que la liberté et le conditionné peuvent, pour reprendre le mot que j'utilisais au début, s'ajuster. Voilà, j'ai dû être rapide. Cela laisse par là même la place à bien des questions nécessaires pour compléter ou éclairer.